Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, fin ce mardi de la visite de 72 heures entamée dimanche par le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Tibor Nadj. Monsieur Nadj a été reçu hier par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et leurs consultations ont porté notamment sur les prochaines élections dans le pays. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Au centre des échanges entre les deux personnalités, la sécurité, la justice, les élections, l'économie, mais aussi le soutien des États-Unis à l'émancipation des jeunes. Tibor Nadj réaffirme à Faustin Archange Touadéra le soutien de son pays au processus de paix lancé par les autorités nationales.
I also wanted to express my support for His Excellency the President and his government.
Je suis là également pour apporter mon soutien au président de la République et son gouvernement.
A government which was elected democratically in 2015.
Un gouvernement qui a été démocratiquement élu en 2015.
And to say that we oppose any and all forces that would like to destabilize the elections or to continue to destabilize the country.
Et nous exprimons également ce soutien au gouvernement tout en nous opposant à toutes les forces ou les entités qui veulent bloquer le processus ou déstabiliser le gouvernement.
Alors que les Centrafricains sont attendus aux urnes en décembre prochain, les États-Unis souhaitent des élections libres et transparentes dans un climat de paix. Aussitôt après l'entrevue avec le président centrafricain, M. Nadj a échangé avec les jeunes étudiants de l'université de Bangui et avec les bénéficiaires du programme YALI, Young African Leaders Initiative. Le sous-secrétaire Tibor Nadj est le plus haut responsable américain à se rendre en République centrafricaine depuis la visite de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Samantha Power, en 2016. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, la ministre française des armées Florence Parly a annoncé lundi à Bamako de nouvelles opérations militaires à venir dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, région où la France et ses alliés sahéliens entendent concentrer leurs efforts contre l'expansion djihadiste. Madame Parly était en visite dans la sous-région pour mettre en œuvre les conclusions du sommet de Pau dans le sud-ouest de la France qui a réuni une semaine plus tôt le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, organisation anti-djihadiste qui regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, des pays confrontés à l'escalade des violences djihadistes. Avant d'arriver au Mali lundi, la ministre française était au Tchad où sa visite a coïncidé avec un attentat suicide portant la marque du groupe djihadiste Boko Haram, attaque qui a tué 9 civils dans la province du lac Tchad. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale ivoirienne où le pouvoir dispose d'une majorité absolue a annoncé ce mardi avoir voté la levée de l'immunité parlementaire de 5 députés pro-Soro arrêtés après le retour avorté le 23 décembre de l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, dont l'immunité a également été levée. La justice ivoirienne accuse l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, d'avoir préparer une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Et toujours en Côte d'Ivoire, les évêques réunis en assemblée plénière lundi se disent préoccupés par le climat de peur dans le pays avant la présidentielle d'octobre 2020. Le point avec Ekia Badou.
Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, dans une déclaration, évoquent les mutineries qui ont ébranlé le pays en 2017 ou des affrontements interethniques comme ceux de Béoumi qui avait fait 16 morts en mai 2019. Progressivement s'installe dans notre pays un climat de peur et de terreur, écrivent les archevêques, qui estiment que les prochaines élections doivent être transparentes, crédibles et pacifiques pour que tous acceptent les résultats. Ils exhortent le pouvoir exécutif à garantir aux personnes et aux instructions, notamment la commission électorale indépendante, une totale indépendance. Comme toute compétition, les élections ont besoin d'un arbitre. Si l'arbitre est à la fois joueur et arbitre, la fin de la compétition est déjà connue, soulignent les prélats ivoiriens. Ils notent que la question de l'indépendance des structures devant arbitrer ces joutes électorales comme la CEI divise et cristallise encore les tensions. L'opposition dénonce depuis des mois la nouvelle commission électorale qu'elle dit illégale et illégitime.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, les ravages des accidents de la circulation au Sénégal. Chaque année, plus de 600 morts sont officiellement enregistrés et les facteurs humains sont responsables à 80% d'après les autorités de la sécurité routière. Course-poursuite et excès de vitesse, entre autres, sont les principales causes de ces nombreux accidents mortels qui ont fini par créer un sentiment d'insécurité routière au sein de la population. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
Dakar est devenu le théâtre d'accidents spectaculaires et particulièrement meurtriers. Le dernier à date a fait 3 morts et 7 blessés graves, des victimes malheureuses d'une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques. Un cas loin d'être isolé est causé par plusieurs facteurs d'après le vieux Abdou Bodian.
D'abord le facteur de l'octroi des permis, ensuite aussi le manque de civisme, le manque au niveau de l'État. Quand il y a une faute, les fautes le plus souvent ne sont pas réprimées. Alors à leur juste titre et aussi quand un gars qui est en infraction, on l'amène à la justice. 2 jours après, on le relâche. Donc tout ça, c'est des facteurs qui jouent en faveur du banditisme au volant et aussi du manque de respect du code de la route.
Une situation qui interpelle également les usagers des transports en commun. Pape Amadou Diop indexe l'attitude des chauffeurs et remet en question la compétence de certains d'entre eux.
Il y a des chauffeurs qui sont formés, qui ont le permis, mais qui ne respectent pas les codes de la route. On voit des chauffeurs tata qui font la course. Bon, je sais pas pour quelle raison, mais ils font la course, ils font de n'importe quoi, alors qu'ils ont leur permis autre. Il y a aussi d'autres cas, des gens qui n'ont pas de permis, des apprentis, comme on les appelle, qui viennent, on leur donne des voitures, ils conduisent sans avoir de permis. Ça aussi, ce sont des causes d'accident. Quand je dis qu'il y a des apprentis qui conduisent sans avoir de permis, ça signifie qu'il n'y a pas de surveillance.
Au-delà du manque de surveillance, c'est la prolifération d'établissements non autorisés qui exacerbe le problème de l'insécurité routière et inquiète les formateurs agréés par l'État. Les auto-écoles ne sont pas tous en conformité avec la législation, comme l'indique Mamoudou Fall, moniteur agréé d'auto-école.
Il y a beaucoup d'auto-écoles et certains sont des clandestins. Certains conducteurs ne passent même pas dans les auto-écoles pour apprendre à conduire. Certains responsables des auto-écoles profitent de cette situation pour arranger le permis à des conducteurs qui n'ont pas le niveau. Une situation qui se passe ici au service des mines, des gens qui n'ont ni permis et qui ne savent pas conduire, encore moins apprendre le code de la route. Cette situation ne favorise que les accidents.
Pour remédier à la défaillance de certains maillons de la chaîne de la sécurité routière, l'État du Sénégal a procédé au remplacement total et à la numérisation des permis de conduire pour garantir plus de transparence dans l'octroi des permis et ainsi impacter positivement sur la sécurité routière. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, c'est aujourd'hui que débute au Sénat américain à Washington le procès en destitution du président Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain est accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour que ce pays annonce une enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden, adversaire potentiel de Donald Trump à la présidentielle de novembre, et son fils Hunter Biden. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Le procès qui entre ce mardi dans le vif du sujet est une perversion dangereuse de la Constitution, écrivent les avocats du président Trump dans un mémorandum de 110 pages soumis hier à la Chambre haute du Congrès. Le Sénat devrait rejeter l'acte d'accusation et acquitter le président immédiatement, indique-t-il. La défense estime que les chefs d'accusation retenus contre Donald Trump sont clairement infondés, dénonçant par la même occasion un processus illégitime. Le président n'a rien fait de mal, a-t-elle ajouté, rappelant qu'aucun témoin entendu durant l'enquête de la Chambre n'a étayé les accusations directes contre le président Trump. La Chambre, dominée par les démocrates, l'a formellement inculpé pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Les sénateurs démocrates aimeraient appeler à la barre des témoins comme le secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney. Les républicains penchent pour d'autres témoins comme Hunter Biden, fils de l'ancien vice-président. Avec 51 sièges, les sénateurs républicains ont déjà la réponse, à moins que des élus républicains fassent défection pour voter avec les démocrates, ce qui est peu probable.
Corruption en Angola pour terminer, mise en cause par les révélations sur l'origine douteuse de la fortune d'Isabel Dos Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos. Le Portugal et les associés portugais de la femme la plus riche d'Afrique réagissent avec inquiétude ou embarras. Isabel Dos Santos et son entourage possèdent des participations importantes dans au moins 17 grandes sociétés portugaises. Et le Portugal a promis au président angolais João Lourenço de l'aider à récupérer les sommes siphonnées en Angola. Merci de votre attention.